Luigi va présenter Augusta. Hein. Ce que je vous propose, c'est que on trouve une solution dans l'année universitaire pour reprendre cette conférence dans des conditions où on sera assuré d'avoir une présence d'amis beaucoup plus conséquente. Et bon, alors après, il faut trouver une salle, un lieu, etc. Mais ça, on se débrouillera avec Augustin et puis l'administration, si j'ose dire. Hein. Si, il est là, il enregistre. Alors, vous aurez aussi, comme d'habitude, sur le site cum.info, l'enregistrement de la conférence. Alors, sur le site cum.info, qui est à jour hein, depuis hier, hein, parce que comme on se déplace moins, on a le temps de faire plus de choses. Et vous verrez qu'on a ajouté toute une série de conférences, enfin, qui étaient plutôt des cours de formation que le CUM a organisé en collaboration avec la Fédération nationale des industries chimiques pour leur cadre militant. Et donc, y ont participé Janine, Michel Pierre, Annie Lacroix-Risse et moi-même. Et vous avez à peu près 6 ou 7 heures, je crois, de discussion autour d'une problématique qu'avait fixée la Fédération de la Chimie, hein, c'était pas nous, c'est quel mouvement révolutionnaire construire. Vous voyez que bon, il y a des gens qui sont intéressés quand même à la question. Alors. Oui, Jacques, tu es où là? Bon, mais on t'attend pour commencer alors. Il est là ton père?
Tous les détails.
Il est dans le métro. Bon, bah écoute, on vous a tout le temps tous les deux parce qu'on l'a fait pour vous, la conférence. Alors, si vous n'arrivez pas, bon, d'accord. Allez. Il est à Odéon. D'accord. Bon, on vous attend. Ciao. Bon, voilà.
Est-ce que c'est bien lancé?
Ouais, c'est bon. Voilà, donc vous avez tout ça sur le site pendant les quelques jours de vacances où vous aurez le temps d'écouter tout ça. Je crois que ça va de 1789 à nos jours, hein, donc on a ratissé large. Hein. Mais c'était intéressant parce qu'on a rencontré des militants CGT du secteur de la chimie, et ils étaient une cinquantaine à peu près de cadres locaux et régionaux, et vraiment c'était stimulant la discussion, hein, parce qu'on ne tournait pas en rond et on appelait les choses par leur nom. Et ils ont même décidé, compte tenu de l'intérêt que ça représentait, du succès que ça a eu, ils ont le projet maintenant, à partir du mois de septembre, de délocaliser ces formations dans toutes les régions où ils ont des grandes implantations industrielles de la chimie. Donc voilà la contribution du CUM aussi à la lutte des classes.
Et d'organiser une suite sur l'impérialisme.
Ah oui, et d'organiser une suite sur l'impérialisme, qui est un sujet qu'ils considèrent comme important. Et nous aussi d'ailleurs. Bon, eh ben, tu commences.
Bien, bien, voilà, nous avons le plaisir d'accueillir Augusta Epagna pour la conférence au titre L'impérialisme en Afrique, le cas du Cameroun. Donc Augusta est d'abord une militante, donc dès l'époque étudiante, donc à l'Union nationale des étudiants du Cameroun, qui, bien sûr, non seulement avançait ses revendications étudiantes, mais militait aussi pour une véritable indépendance du pays et pour un pouvoir au service des travailleurs. Je rappelle que la section de France de cette Union des étudiants du Cameroun a été interdite par Michel Poniatowski, à l'époque ministre de l'Intérieur. Augusta Epagna a aussi adhéré et représente le MANIDEM, Manifeste National pour l'Instauration de la Démocratie, dont l'objectif est de contribuer à reconstruire l'Union des Populations du Cameroun, créée en 1948. Donc actuellement on parle de UPC MANIDEM, dont Augusta donc est membre de la direction. Et elle a participé à la rédaction de l'ouvrage voilà, que nous avons ici, Cameroun, l'indépendance piégée, donc je lis le titre, hein, de la lutte de libération à la lutte contre le néocolonialisme, paru chez l'Harmattan en octobre 2011. Donc, ouvrage écrit avec Jean Chatin et Albert Moutoudou. Voilà, donc merci beaucoup d'être merci. Avec nous. Et donc c'est enregistré, donc ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce soir auront l'enregistrement.
D'accord, ben merci. Merci à vous de venir pour cette conférence sur l'impérialisme, l'exemple du Cameroun. Alors, il y aurait fort à dire sur plus que sur le Cameroun, hein, parce que surtout avec l'actualité en ce moment. Bien que le Cameroun ait une actualité très importante également, même si on n'en parle jamais. Mais bon, je pense à l'actualité liée à ce qui se passe autour du Niger, du Burkina et du Mali, ce dont on parle plus puisque les troupes françaises sont concernées et impliquées. Donc à ce titre-là, au moins, on en parle un peu plus. Donc le Cameroun, je ne sais pas si vous situez géographiquement, c'est considéré comme faisant partie de l'Afrique centrale. Et en fait, c'est la jonction entre l'Afrique de ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, etc., Mauritanie, et l'Afrique, on est juste à la jonction des deux, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est un pays de plus de 475 000 km², avec donc qui a malheureusement eu le privilège, entre guillemets, je fais un peu d'humour, d'avoir connu la colonisation allemande, d'abord jusqu'en 1900, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, et puis ensuite, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands donc ont capitulé, enfin ont été battus, et du coup, le Cameroun a été partagé entre la France, qui a eu 80% du territoire, et la Grande-Bretagne. Donc au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les francophones, entre guillemets, et les anglophones. Je vous dis ça parce que vous verrez après par rapport à l'actualité pourquoi je précise cet aspect-là, qui est d'ailleurs important puisque historiquement on a connu donc ces trois colonisations. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est faire un petit rappel historique de la situation coloniale du Cameroun. Ensuite, vous présenter l'UPC en quelques dates. Ensuite, caractériser la nature de l'impérialisme, notamment français au Cameroun, puisque c'est ce dont il s'agit. Parler de la situation actuelle. Et ensuite, tracer un peu des perspectives, vous présenter un peu les perspectives dans lesquelles on se trouve et qu'on essaie de construire pour sortir un peu de l'obscurantisme dans lequel on est maintenu par ce système néocolonial et capitaliste, bien entendu. Donc, sans être collé totalement à mon texte, mais sinon moi je fais beaucoup de digressions et je peux partir dans des aspects et ça disperse un peu le propos, donc je vais quand même un peu coller à mon texte ce que j'ai écrit pour que ce soit un peu clair. Tiens, voilà, salut Jacques. Donc en ce qui concerne le rappel historique, c'est en 1884 donc que l'Allemagne prend possession du Cameroun après la signature d'un accord avec certains rois Douala. Donc Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, au profit de la firme, parce que évidemment il s'agissait essentiellement et principalement de relations commerciales, enfin relations, si tant est qu'on puisse parler de relations, puisque on ne vous demandait pas votre avis, on s'imposait et puis on imposait on pillait les richesses, d'ailleurs ça continue un peu aujourd'hui, hein, même beaucoup, et donc au profit de la firme Verman, je prononce mal, et Tormalen. Accord que le consul général signe à son tour comme traité de protectorat. Donc dans un premier temps, on est sous le statut juridique, c'est protectorat. Cela coïncide donc avec le partage du continent à l'issue de la conférence internationale de Berlin 84-85, où ils se sont partagés, les grandes puissances européennes se sont donc partagées l'Afrique. Et quand je dis partager, c'est vraiment partager, c'est-à-dire que vous avez une communauté de langues et de vie, de coutumes, etc., qui se retrouve partagée entre deux pays ou entre trois pays, hein, selon la situation géographique du pays. Donc vous voyez un peu ce que ça peut faire. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous prenez le Gabon et le Cameroun, on a une frontière commune, vous avez une partie de la même communauté qui se trouve au Gabon, une autre partie qui se trouve au Cameroun. C'est pour vous dire à quel point la violence a été grande dans la déstructuration de ces sociétés qui avaient leur cohérence, qui avaient leur organisation, qui avaient leurs us et coutumes, leur langue, etc. Donc c'est l'apparition donc de grandes plantations d'exploitation calquées sur les concessions belges et françaises du Congo, hein, donc voilà des grandes concessions qui s'installent, et les premiers travaux d'infrastructure, chemin de fer Douala-Nkonsamba, c'est une autre ville à l'ouest du Cameroun, Douala-Ezeka, des ponts métalliques, et avec le développement du travail forcé et de nombreuses répressions sanglantes, puisqu'il y avait des révoltes fréquentes des travailleurs, enfin de ceux qu'on obligeait à travailler, mais qu'on considérait même pas comme des travailleurs, hein, plutôt comme des esclaves, puisqu'il n'y avait même pas de salaire en contrepartie de la force de travail qu'il mettait à disposition. L'administration coloniale systématise l'expropriation des terres, notamment à Douala, et le roi, un des rois donc, qui s'appelait Rodolphe Douala Mangabel, proteste auprès de Berlin, et il est démis de ses fonctions le 4 août 1913 et accusé de haute trahison. Il sera pendu le 8 août 1914. À la fin de la guerre de 14-18, donc l'Allemagne perd le Cameroun et le Togo. Hein, le Togo était dans la même configuration coloniale, c'est-à-dire d'abord Allemagne, ensuite partage entre la France et l'Angleterre. Le 19 mai 1919, une commission interalliée, réunie à Londres, entérine le partage du Cameroun et du Togo entre la France et la Grande-Bretagne. Au nom d'une brève esquisse de condominium, la partition effectuée après le conflit ayant embrasé le continent européen entre un Cameroun français et un Cameroun britannique fut imposée par les vainqueurs de 1918. Il s'agit là d'un acte des plus injustes et des plus arbitraires, comme le faisait observer Ruben Nyobe, on y reviendra, c'est un des fondateurs de l'UPC, figure historique donc de la lutte de libération, car le Cameroun n'avait déclaré évidemment la guerre à aucun État, bien entendu, mais était partie prenante de la France, puisque c'était une possession de la France. Donc juridiquement parlant, le Cameroun n'était pas une colonie, mais un pays sous mandat, c'est-à-dire que théoriquement, c'est un pays sous mandat, donc il n'a pas le statut de colonie. Mais évidemment, tout ce que vous lirez sur le Cameroun indiquera que le Cameroun subit exactement le même sort que les colonies, sauf que juridiquement, et l'UPC a beaucoup intervenu sur ces aspects un peu juridiques, pensant que par ce biais-là, notamment au niveau des Nations Unies, il arriverait à faire valoir. On avait encore la naïveté de penser que la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, respecterait les principes qu'il s'était fixés. Évidemment, il n'en a rien été. Donc la France est censée rendre compte à la toute nouvelle instance, la Société des Nations, donc créée à l'initiative des États-Unis, qui dit que selon l'article 22, du pacte de la Société des Nations en 1919, les peuples, je cite, hein, les peuples non encore, écoutez bien parce que ça c'est très très édifiant sur le type de considération, les peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne sont confiés à la tutelle des nations développées, étant entendu que le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation. Donc ça, c'est vraiment un bijou, quoi. Et c'est d'autant plus un bijou quand vous savez comment les peuples en question étaient traités. Donc la réflexion de la ligne ferroviaire Centre-Cameroun, héritée de la période coloniale allemande, fut assurée essentiellement par le travail forcé, de même que la construction des routes et l'aménagement du port de Douala. Ce système de surexploitation extrême fut étendu aux plantations privées. Or, les textes disent que vous pouvez éventuellement utiliser le travail forcé, hein, c'est clairement dit, pour tout ce qui concerne les travaux publics. Donc la construction des routes, des chemins de fer, etc. Mais pas dans le cadre des plantations privées. Là aussi, l'UPC, naïvement pensant, et les travailleurs d'ailleurs, les embryons de syndicats qui commençaient à se mettre en place, pensant qu'elle pourrait faire valoir ces textes-là en disant « Mais attendez, c'est parce que normalement, les textes ne disent pas ça, on ne doit pas utiliser le travail forcé dans les plantations privées. » Il y a eu des pétitions qui ont été organisées très tôt, dès le début. Il y a eu la démarche pétitionnaire a été très très fortement utilisée en direction et des colonialistes et de la Société des Nations, toujours pensant que, bon, en protestant, en disant, mais attendez, c'est pas ce qui est écrit dans les textes, on arriverait. J'insiste là-dessus parce que vous verrez après pourquoi j'insiste sur toute cette démarche-là, très pacifique, peut-être même très naïve, mais bon, voilà, où on pensait que le droit pouvait quand même se faire entendre. Et ce système, donc, bon, alors, de 1926 à 1933, une douzaine de pétitions furent envoyées par des chefferies Douala à la commission permanente de mandat de la Société des Nations, dénonçant cette situation, dérogeant avec le droit international, sans obtenir évidemment de réponse, ni susciter la moindre enquête. Le statut inhérent à ce mandat n'a pas été assorti de limites dans le temps. Cette administration civile et militaire avait un pouvoir sans limite, l'exception de périodiques rituels de rapports à laquelle la Société des Nations était plutôt indifférente. C'est-à-dire que tous les ans, le pays qui avait, donc la France en l'occurrence, devait venir devant la Société des Nations faire un rapport, rendre un peu compte de la situation et dire ce qui se passait, comment ça se passait, etc. Et à ce titre-là, les Camerounais, et vous verrez après les dirigeants de l'UPC, notamment Oum Niobe, l'un des fondateurs de l'UPC, est venu à trois reprises, entre 52 et 54, plaider la cause du Cameroun et demander à ce que ce mandat prenne fin, et après, parce qu'on est passé du mandat à la tutelle, et que cette tutelle prenne fin, et qu'on puisse accéder à l'indépendance. Évidemment, rien ne s'est passé comme c'était prévu dans les textes. Donc, on a insisté beaucoup là-dessus, évidemment, cette situation a fait que, si vous voulez, cette démarche très pacifique, très dans le droit, etc., a fait que la situation s'est dégradée, et il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions entre les travailleurs camerounais qui commencent à s'éveiller à la chose syndicale, à l'organisation de leurs intérêts, et voire au-delà de ça, parce qu'il y a eu il y a eu des militants de la CGT et du Parti communiste qui ont été envoyés dans les colonies, évidemment, et il y a quelqu'un, par exemple, comme Gaston Donat, qui a écrit un bouquin qui est un beau témoignage sur le travail des militants communistes et syndicalistes CGT dans les colonies, et le travail anti-impérialiste, hein, où ils ont effectivement travaillé avec les militants pour construire des embryons de partis au départ. Donc il y a eu un cercle d'études sociales qui a été mis en place par Gaston Donat avec ceux qui deviendront plus tard les dirigeants de l'UPC. Et d'ailleurs, ce qui a fait que l'UPC, quand l'UPC s'est constitué en 1948, 10 avril 48, et la première carte, la carte numéro 1 du parti a été donnée à Gaston Donat, symboliquement, par rapport à ce qu'avait été son investissement. D'ailleurs, il a eu beaucoup de problèmes avec ses compatriotes français, qu'il traitait évidemment de traîtres. On considérait que c'était un traître et qu'il trahissait évidemment les intérêts des colons français et qu'il n'était absolument pas dans la norme. Donc je vous passe là quelques dates marquantes. Du 24 au 31 août 1940, Leclerc débarque à Douala, donc ça c'est important aussi. Ça veut dire, vous voyez à quel point toutes ces colonies ont aussi été utilisées dans le mouvement de libération de la France, etc. Donc Leclerc débarque à Douala, et puis va ensuite à Yaoundé. Le 8 octobre 40, c'est De Gaulle qui arrive à Douala. Le 30 janvier 44, c'est la conférence de Brazzaville. Avril-juin, Gaston Donat, justement j'en parlais à l'instant, et Méric fondent le premier cercle d'études sociales, donc avec des militants camerounais. Le 7 août 44, il y a un décret autorisant à la création des syndicats, des premiers syndicats en Afrique subsaharienne. 7 août 44 hein, seulement. C'est pas qu'il n'y avait pas des tentatives de création de syndicats avant, hein, mais l'autorisation de l'administration coloniale n'est accordée que le 7 août 44. 18 août 44, c'est la création des syndicats confédérés du Cameroun, et on avait d'ailleurs une CGKT, Hein, donc on a ajouté le K pour Cameroun, puisque à l'époque des Allemands, Cameroun s'appelait Cameroun avec K. Donc vous verrez parfois dans certains textes, d'ailleurs nous aussi, notre bouquin on l'a écrit comme ça, parce que c'était d'une part un refus de partition du Cameroun, d'autre part dans les langues bantoues, ça s'écrit plutôt comme ça qu'autrement, mais ça correspond aussi à l'époque allemande. Donc évidemment, selon où et comment on se situe, on peut considérer que c'est l'héritage allemand. Bon, nous on considère que c'est aussi l'héritage bantou, et donc voilà, c'est une... Alors, donc 18 septembre, décembre, pardon, 44, création des syndicats confédérés du Cameroun, et où Oumiobé, donc le fondateur de l'UPC, est élu au secrétariat. En septembre 45 seulement, droit de vote est accordé aux Camerounais. Septembre 45. La première manifestation de travailleurs à Douala, le 24-25 septembre, est réprimé et fait plusieurs dizaines de morts. 11 avril 46, pardon, c'est l'abolition du travail forcé. 46, la proclamation de l'Union française. 27 octobre 46, proclamation de l'Union française. Donc voilà un peu, en quelques dates, le contexte national et international de l'époque. Hein, vous voyez un peu les moments où les droits sont octroyés, alors que bon, ça fait bien longtemps que les gens luttent et essaient de défendre leurs intérêts, mais évidemment ça met du temps, et tant que le rapport de force n'est pas suffisant pour imposer telle ou telle décision, bon, les choses ne sont pas décidées. L'UPC est créé le 10 avril 48 à l'initiative principalement de syndicalistes. La plupart de ceux qui ont été à l'initiative de l'Union des Populations du Cameroun, donc oui, UPC ça veut dire Union des Populations du Cameroun, c'est important de le dire parce que dans des contextes africains où on présente souvent l'Afrique ou les pays africains comme des espèces de communautés tribales, je le dis comme ça exprès, qui sont prêtes à s'entre-déchirer, à s'entretuer, à prendre des sagaies les uns contre les autres. C'était important qu'un parti comme l'Union, comme l'UPC choisisse ce nom-là. Ça veut dire que justement, on refuse cette façon d'appréhender le pays et les habitants de ce pays. Et c'est une façon de dire qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on s'organise tous dans le même parti. Qu'on soit homme, femme, jeune, vieux, on s'organise dans le même parti. Et on prend en considération toutes ces dimensions, et quelle que soit la religion dont on se réclame ou pas, on s'organise dans le même parti. Et ça, c'était important, et ça fait partie des fondements de l'UPC dès le départ. Dès 48, c'était vraiment les fondements. Et donc l'UPC s'est organisé sur trois principaux axes qui étaient la réunification, c'est-à-dire qu'on refusait la partition coloniale, l'indépendance, et dans l'indépendance on y mettait un contenu précis, c'était pas une indépendance formelle, et l'élévation du standard de vie. Alors c'était une manière de dire qu'on veut un Cameroun au service du peuple, on l'exprimait dans ces mots-là, avec ces mots-là. Vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous récite Lénine ou Marx dans ce qui va faire les fondements de l'UPC, parce que ça ne peut pas se présenter comme ça, ça ne peut pas se dire comme ça, ça ne peut pas se traduire comme ça. Et ce serait une caricature d'ailleurs. Ceux qui ont tenté de le faire comme ça, on a vu comment ça s'est terminé. Hein. Souvent, il y a certains pays africains qui ont prétendu faire du marxisme-léninisme, et les trois quarts, ils ont fait essentiellement du colonialisme et du capitalisme, ou du néocolonialisme, et ils n'ont pas du tout construit le socialisme tel qu'on l'entend. Et vraiment, je pense à des pays comme le Bénin, je pense à des pays comme le Congo, où malheureusement, ça n'a été que des caricatures. Et ça n'a absolument pas, ça ne s'est absolument pas traduit. Je le dis parce qu'on est en ce lieu-là, et je crois que c'est important de le dire, et que c'est important aussi de lire au-delà de l'habillage verbal, il faut des fois creuser, c'est-à-dire que vous verrez d'ailleurs, si pour ceux qui on s'intéresse, veulent creuser un peu la question. On aborde un peu ces questions-là dans notre bouquin. Justement, quand on demande souvent quand on demandait à Ruben Oumyobé, donc le premier secrétaire général du parti, si l'UPC était communiste, il a toujours dit, alors qu'on s'est toujours référé souvent, que ce soit la formation, que ce soit même le programme, etc. Vous voyez bien que ça reposait sur ces fondements-là. Mais en même temps, et compte tenu du contexte, parce que les colonialistes tapaient d'autant plus fort qu'ils considéraient qu'on était un mouvement affilié aux communistes, or, dans ce mouvement de libération, il y avait évidemment des marxistes, bien entendu, et je pense que Oumyobé en faisait largement partie, mais il y avait des non-marxistes. C'était un mouvement de libération. Donc par définition, vous aviez des gens qui n'étaient pas marxistes, bien sûr. C'était un mouvement de libération. Et on a gardé ce sigle-là. On n'est plus un mouvement de libération, mais quelque part, finalement, on ne s'est pas vraiment libéré. Donc, je veux dire, on est quand même toujours sous le joug impérialiste. Donc, il y a encore, dans notre parti aujourd'hui, des marxistes. Donc, moi, je considère que je fais partie des marxistes. Mais il y a aussi des non-marxistes. Aujourd'hui, on en est là. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément, dans la phase où on se trouve, dire on ne se réunit qu'entre marxistes. Auquel cas, on risque de se retrouver vraiment à une poignée de cerises. Déjà, c'est compliqué en disant on est le parti qu'on est, en gardant, de façon extrêmement ténue, si vous voulez, les orientations qui sont les nôtres, c'est-à-dire des orientations de rupture avec un système. C'est déjà très compliqué. Ben, si on se dit juste on n'est que des communistes et on se réunit contre communistes, je crois que ça va être encore plus compliqué. Donc, parce que en plus les peuples africains, malheureusement, aussi compte tenu de la propagande internationale, qui n'est pas propre à ce qui se passe en Afrique, mais qui, bon, c'est ce qui se passe aussi dans les pays occidentaux. On vit en France, on voit bien la manière dont on présente le communisme, dont on présente les expériences communistes, dont on salit tellement tout ce qui peut, se réclamer du marxisme, que nos pays sont aussi victimes de ça. Et évidemment, l'anticommunisme, quand vous parlez, alors qu'on est, on vit dans un système capitaliste, évidemment, mais l'écho. Quand vous parlez directement de communisme, les gens, c'est un effarpoussoir. Pour le moment, on en est là. On en est là, donc c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué de ramer à contre-courant. C'est d'autant plus difficile que on n'a pas la liberté n'existe pas. La liberté d'expression, la liberté d'organisation n'existe pas. Donc, évidemment, si on pouvait s'exprimer librement et dire ce qu'on a à dire et s'organiser comme on l'entend et faire des conférences et écrire, etc., ce serait beaucoup plus facile, mais ce n'est pas le cas. Donc, on est dans une situation extrêmement compliquée. Je le dis tout de suite, parce que c'est vrai que j'imagine que quand on est dans un cadre comme celui-là, c'est aussi utile et nécessaire de se positionner par rapport à ces questions-là, je crois. Donc les revendications de l'UPC, donc j'en ai parlé, donc c'est les trois principaux mots d'ordre que je vous ai indiqués. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès janvier 52, l'UPC et le Cameroun, un parti de la zone dite anglophone, s'entendent sur le mot d'ordre d'unification immédiate du pays. Alors ça met les colonialistes des deux français et anglais, évidemment, dans tous leurs états. Et là, la répression redouble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils voient qu'il y a alliance entre ces deux organisations, l'UPC, qui en 55 comptait plus de 80 000 adhérents. Plus de 80 000 adhérents, ça veut dire des gens qui avaient leur carte de l'UPC. Et quand je dis 80 000 adhérents, vous voyez ce que ça peut vouloir dire en termes d'influence. Ça veut dire que tous les gens étaient disséminés sur l'ensemble du territoire et leur zone d'influence était au-delà, bien sûr, des 80 000. Et donc l'UPC avait une très très importante aura et était très très populaire. Et février 52, c'est la création de l'Union démocratique des femmes camerounaises, qui est donc apparentée à l'UPC. C'est-à-dire que dès sa création, l'UPC a vu l'impérieuse nécessité d'organiser, de faire en sorte que les femmes prennent part au combat. Les jeunes, Jeunesse démocratique du Cameroun, organisation de jeunesse. Vous voyez, même dans les modèles d'organisation, c'est organisation de femmes, organisation de jeunesse, mais toujours en lien avec le parti. Donc même dans la structuration, vous voyez, ça rappelle quand même des petites choses. Donc en novembre 1954, Paris dépêche un nouveau haut-commissaire qui s'appelle Roland Pré. Ça va peut-être rappeler des petites choses à quelques-uns, qui manifeste aussitôt sa volonté d'en finir avec l'UPC. Dès mars 1955, Roland Pré ouvre une instruction contre Ruben Umiobe, donc le fondateur de l'UPC, et le 22 avril, il y a une proclamation commune qui est faite et qui demande l'indépendance immédiate. Là, il n'y a plus de tergiversation, on ne va plus aux Nations Unies réclamer gentiment l'UPC, on dit bon, c'est bon, là, ça suffit, maintenant, on demande l'indépendance. Et alors là, ça a été le déferlement de répression et ça a été un vrai jeu de massacre. Et moins d'une semaine après, donc Umiobe passe dans la clandestinité en Sanaga Maritime, c'est une région du Cameroun. Et les 15, 22 et 23 mai, la police attaque des réunions de l'UPC. Le 24 mai 55 à Douala, les manifestants s'en prennent à des postes de police en vue d'un projet d'attaque de la prison. Parce qu'il y avait énormément de militants qui étaient arbitrairement emprisonnés. Donc du coup, les militants ont décidé de s'attaquer à la prison pour libérer les camarades. Et évidemment, alors là, ça a été... on a ouvert le feu sur les militants, etc. Le 25 mai 55, il y a eu une manifestation pacifique où il y avait des milliers de personnes. Et ils ont tiré dans le tas, il y a eu plus de 5000 morts. Donc hommes, femmes, etc. Et à partir de là, l'UPC, dès juillet, l'UPC est interdite. L'UPC, la JDC, l'UDFEC, donc organisation de jeunes, organisation de femmes, interdite. Ils prennent une décision de dissolution de l'UPC et donc l'UPC entre en clandestinité. Et c'est comme ça que la décision est prise d'engager la lutte armée. Autant vous dire que c'est pas quelque chose qui était vraiment... c'est pas quelque chose qui était inscrit dès le départ dans la stratégie de l'UPC. C'est vraiment les événements et la montée en escalade de la répression et du fin de non-recevoir du colonialisme et de l'impérialisme qui a fait que l'UPC finalement s'est trouvé... pratiquement acculé à prendre les armes en disant c'est pas possible, et donc une fois qu'elle s'est retrouvée dans la clandestinité, elle s'est organisée en maquis, et la lutte armée a été engagée. Ça a duré 10 ans. Les derniers maquis, c'était la fin des années 60, 68-69, et ils ont systématiquement tenté de décapiter ce parti en assassinant ses dirigeants, enfin ses militants en général et ses dirigeants en particulier. Umiobe a été, on lui a tendu un piège, il était dans le maquis, donc le secrétaire général, il était dans le maquis et on lui a tendu un piège et il est sorti de son maquis et en septembre 58, il a été assassiné. Félix Roland Moumier, qui était le président de l'UPC, un dirigeant médecin et qui se trouvait à ce moment-là en Suisse, a été piégé par un gars de la police, des services secrets français, qui s'est fait passer pour un journaliste en Suisse, qui l'a invité à manger, et il a été empoisonné. Donc ça, c'était le 3 novembre 60. Et le dernier chef historique de l'UPC, qui s'appelait donc Ernest Wandier, a été assassiné sur la place publique après une parodie de procès en janvier 71, 12 janvier 71. Donc systématiquement, il y a eu, quand je parle de décapitation, c'est pas une façon de parler, c'est une vraie décapitation au sens où liquidation physique de tous les dirigeants de l'UPC. Donc, ça a été la manière de faire du colonialisme, et durant toute la période de maquis, quand ils arrêtaient des militants, quand ils arrêtaient ce qu'ils appelaient les maquisards, donc maquisards qu'on faisait passer pour des terroristes, pour utiliser le langage d'aujourd'hui, Et on coupait les têtes et on mettait les têtes le long de la route. En général, les têtes étaient alignées le long de la route pour que la population voit ces têtes et évidemment, surtout, ne rejoignent pas l'UPC. Évidemment, c'était une manière de dissuasion pour dire voilà ce qui vous attend si vous rejoignez ce parti de Maquisard. Donc, on se retrouve dans cette situation-là et l'UPC jusqu'en 71, c'était la lutte armée et la répression donc qui se termine. Et avec l'assassinat d'Ernest Soignier, l'UPC s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile, très affaiblie. Et pour eux, ils avaient liquidé l'UPC. Historiquement, on a liquidé le dernier chef historique, c'est fini. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, l'histoire ne s'est pas écrite comme ça. Et c'est comme ça que, en fait, une partie de la diaspora était militante de l'UPC, et ceux qui ne l'étaient pas étaient à l'Union nationale des étudiants du Cameroun, dont on a fait état tout à l'heure. Union nationale des étudiants du Cameroun, qui était certes une organisation estudiantine, bien sûr catégorielle, qui défendait les étudiants, mais qui avait une orientation très clairement politique, au sens où elle s'était inscrite d'emblée dans une dans un ancrage anti-impérialiste et considérait que la manière la plus sûre de répondre aux intérêts des étudiants, c'était de construire une véritable indépendance et une véritable souveraineté. Par conséquent, elle a pris fait et cause pour l'UPC, même s'il n'y avait pas d'affiliation directe. Et que tous les militants, bien sûr, de l'UNEC n'étaient pas des militants de l'UPC. Mais ça a servi un peu de creuset pour la reconstruction. Et donc l'UPC, se trouvant en très grande difficulté, a commencé à réfléchir à partir de la diaspora, en lien évidemment avec les militants avec lesquels on pouvait être encore en contact sur le territoire national, à une manière de reconstruire l'UPC. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce fameux MANIDEM. MANIDEM qui veut dire Manifeste National pour l'Instauration de la Démocratie. Et qui était conçu comme une espèce de mouvement à trois niveaux. Un courant d'opinion, donc on faisait beaucoup d'agitation. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc on écrivait des tracts, on essayait de diffuser des journaux, tout ça de façon clandestine. Beaucoup de choses se faisaient à partir de l'extérieur. Nous, à l'extérieur, on envoyait des choses au Cameroun ou des pays africains voisins. Et on aspergeait, on envoyait dans les quartiers, on essayait de diffuser le plus largement, etc. Il y avait le courant d'opinion, il y avait le mouvement autonome des masses. Donc on essayait d'influencer les associations, même d'en créer, les syndicats, etc., mouvement autonome des masses. Et il y avait le mouvement révolutionnaire lié au parti, donc c'était un peu l'antichambre du parti. Et les camarades qui se trouvaient dans ce mouvement révolutionnaire lié au parti, en général, on faisait en sorte qu'ils adhèrent au parti. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a reconstruit le parti de cette manière-là, et on a réussi à réimplanter largement le parti, et à l'extérieur, et à l'intérieur. Donc ça, ça a été vraiment un travail de fourmi, et on a vraiment réussi à faire renaître ce parti de ses cendres. Et donc ça, c'est, bon voilà. Et surtout, ce qui est assez atypique, si vous voulez, c'est que c'est un des mouvements de libération qui a gardé le cap. Parce que quand vous regardez dans beaucoup de pays africains où il y a eu des mouvements de libération, où il y a eu des luttes très dures, je pense au MPLA, je pense même à l'ANC, je pense etc., où il y avait des marxistes aussi, où quelque part on avait un peu la même configuration. C'est-à-dire que vous aviez des mouvements de libération comme ça très très radicaux, qui voulaient rompre avec l'impérialisme, avec le néocolonialisme, etc. Et beaucoup ont dégénéré. Quand on regarde l'Angola aujourd'hui, c'est le MPLA qui est à la tête du pays, c'est une espèce de nomenclatura. Finalement, c'est pas très différent, voire même quasiment pas différent, d'un système néocolonial du Cameroun. Alors que théoriquement, c'est pas du tout ça, mais pratiquement, c'est ça. Vous avez une caste qui s'enrichit et la majorité du peuple qui crève la dalle. Alors que c'est un pays éminemment riche, Et l'ANC, vous voyez comment, enfin, je sais pas, je suppose que vous avez de temps en temps des échos, même si vous ne suivez pas l'actualité africaine, mais voilà, on en parle quand même un peu plus que du Cameroun. L'ANC, pareil, vous voyez un peu comment ça, bon, comment ça évolue, c'est pas ça, quoi, c'est vraiment pas ça. Donc, alors, est-ce parce que on n'est pas arrivé au pouvoir? On n'en sait rien, ça, je sais pas, mais en tout cas, on a maintenu nos orientations. Et on les maintient à ce jour. Bon, et on continue à se battre pour qu'elles puissent effectivement voir le jour. La présence de l'impérialisme français, il est constant. Il n'a jamais, comment dirais-je, ça a toujours, il a été maintenu en continu. C'est-à-dire que ceux qui se sont battus pour l'indépendance, en l'occurrence l'UPC, on a ravi cette indépendance à l'UPC, c'est-à-dire qu'on a fait le colonialisme, l'administration coloniale a tout fait pour que l'UPC n'accède pas au pouvoir, et a par contre installé ses hommes de main, notamment Amadou Ahidjo le 1er janvier 60, qui a toujours été au service de l'administration coloniale, a été installé, et quand il a été installé le 1er janvier 60, il y avait des manifestations dans tout le pays de protestation. Disant c'est pas légitime, il n'a rien à faire à la tête du pays, il ne s'est jamais battu pour l'indépendance, bien au contraire, il s'est battu contre, par conséquent c'est pas lui qui devrait être là, et donc le pouvoir, l'administration coloniale a réussi à imposer son homme de main qui est resté donc à la tête du pays jusqu'en 82 et qui en 82 a passé le relais à son premier ministre qui est Paul Biya qui est toujours aux affaires. En 60 ans, presque, on a eu deux présidents, Amadou Ahidjo, Paul Biya, dont à qui on a passé le relais, enfin à qui Ahidjo a passé le relais, et qui continue bien sûr la même politique. Donc, Paul Biya est là depuis 1982, soit 37 ans, il a à peu près 4, on ne sait pas trop, mais on dit qu'il a 4, entre 87 et 88 ans, certains disent que c'est même possible qu'il ait plus. Comme l'état civil n'était quand même pas très, très rigoureux à l'époque, donc on ne sait pas, c'est possible qu'il ait plus. Et il est toujours à la tête du pays, donc deux présidents en 60 ans, avec une présence française dans tous les domaines. Il y a 114 filiales françaises, enfin filiales de multinationales au Cameroun. Vous avez quelqu'un pour parler de quelqu'un que tout le monde connaît, Bolloré, qui possède les chemins de fer, le port, des plantations à perte de vue, des villageois, des villages entiers qui sont, comment dirais-je, dont on chasse les villageois des terres pour exploiter ces terres, etc. Et donc vous avez 114 multinationales qui sont présentes. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a 20, 25 ans ou 30 ans, il y a de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a évidemment... il y a également les Canadiens qui sont là, les Américains, les Chinois, bien sûr, mais ça reste à la marge. La France continue à totalement dominer l'économie camerounaise, vraiment, dans tous les domaines. Et il y a des accords, évidemment économiques, qui privilégient la France. Il y a des accords qui disent clairement que c'est la France qui doit exploiter, extraire les richesses du sol et du sous-sol. Enfin, il y a des accords de privilégiés entre la France et le Cameroun. Il y a des accords militaires. Donc, il n'y a pas de base militaire au Cameroun, mais il y en a tout autour. Donc, c'est pas utile qu'il y en ait au Cameroun. Mais il y a des instructeurs français qui entraînent l'armée camerounaise. Et la garde rapprochée de Paul Biya, donc du président, est entraînée par Israël, l'État israélien. Donc voilà, on se retrouve dans une situation où, dans tous les domaines, il y a des accords qui privilégient vraiment l'État français et qui maintient une domination sur ce pays. D'ailleurs, le Cameroun n'est pas le seul pays dans cette situation. En fait, le précaré français, c'est 14 pays, et 14 pays sur lesquels il y a une mainmise Partout ailleurs, ça bouge un peu. Alors, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est merveilleux en Afrique de l'Ouest ou en Afrique australe ou en Afrique de l'Est. Mais partout ailleurs, ça bouge un peu en termes de liberté publique, en termes de construction d'une démocratie où on peut enfin s'exprimer sans risquer sa peau, etc. Et en termes aussi d'alternance. Alors, même si ce ne sont pas des alternatives au sens où on l'entend, c'est-à-dire une rupture avec un système capitaliste, mais au moins l'alternance, où il y a des élections qui sont à peu près transparentes, voilà, où il n'y a pas trop de tripatouillage. En Afrique centrale, c'est absolument pas le cas. Partout, les processus électoraux sont contestés. Partout, vous avez des dictateurs qui sont là depuis 30, 35 ans, 40 ans. Et partout, ces dictateurs-là sont soutenus d'une main de fer par la France. Compaoré au Burkina, c'est l'armée française qui l'a, exfiltré. Hein, qui l'a exfiltré. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est l'armée française qui est venue installer Ouattara et qui a arrêté Gbagbo. Et donc voilà, c'est des au Burkina, on a vu que les orientations que prenait Sankara à un moment donné, où il commençait à affirmer sa volonté, eh bien, dès le début d'ailleurs il l'a affirmé, hein, de faire la rupture avec le néocolonialisme, il l'a payé de sa vie. Vraisemblablement, Compaoré qu'on a installé ensuite, devait être en lien, on sait qu'il était en lien avec la Côte d'Ivoire. C'était au Fouet de Boigny à l'époque, et au Fouet de Boigny, c'est l'incarnation de la France-Afrique au Fouet de Boigny. C'était le père de la France-Afrique. Donc, autant d'éléments qui montrent que l'Afrique centrale, d'abord, c'est une région extrêmement riche. Extrêmement riche. Par exemple, vous avez le Congo. Le Congo, c'est le bassin, c'est l'endroit, en termes de richesse minière, etc. Vous avez le cobalt. C'est le premier producteur de cobalt qui sert à faire les téléphones, etc. De l'or, du pétrole, vous avez tous les minerais les plus rares qu'on trouve dans cette zone là donc c'est pas pour rien que c'est aussi et autant verrouillé. C'est pas pour rien. Donc ça a des conséquences évidemment sur la construction d'un mouvement révolutionnaire, évidemment, parce que quand vous empêchez les gens de s'organiser, quand vous empêchez les partis de se structurer, de faire son boulot, son travail de masse, etc., évidemment que ça a des conséquences, bien sûr pour ces organisations, mais aussi sur les populations. C'est-à-dire que tout le travail de conscientisation, on a beaucoup de mal à le faire, bien entendu. Et donc voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Alors, bon, je parce qu'après je préfère qu'on échange, etc. Donc, pareil, il y a des accords militaires qui lient le Cameroun à la France, comme la plupart des 14 pays. Hein. Les 14 pays ont des accords militaires et qui disent... qui énonce clairement que la France doit venir au secours des États dictatoriaux. Voilà, c'est très clair. Les accords sont très très clairs. Ça veut dire qu'effectivement, quand ces dictateurs sont menacés par leur peuple qui se révolte, quand ça se produit, eh bien, la France se débrouille pour les maintenir d'une manière ou d'une autre, quitte à faire une intervention. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, ils le font sans problème. La situation actuelle, c'est quoi? La situation actuelle, donc, on se retrouve avec, à l'extrême nord, Boko Haram. Depuis 2014, venant du Nigeria, il y a Boko Haram. Sauf que Boko Haram, évidemment, avec le chaos créé par l'intervention en Libye, tout ça... C'est la prolifération des armes, ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des moyens, et le rôle de la France n'est pas clair. Des fois, enfin, c'est d'ailleurs tous les questionnements que les gens ont. Parce que je vois une camarade qui au film de la tête, mais quand je dis pas clair, on le sait bien que c'est pas clair. Non, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on se demande même dans quelle mesure... Des fois, ils ne sont pas même derrière certaines opérations. Non, mais je veux dire, après, on n'en a pas la preuve formelle, vous voyez ce que je veux dire? Non, bon, moi, je ne veux pas... Bon. Mais il y a des vraiment beaucoup de questionnements, quoi. Beaucoup de questionnements sur le fait que ça perdure depuis 2014. Alors, justement, au motif qu'il y avait Boko Haram, les incursions régulières, etc., donc l'armée est installée pratiquement de façon permanente, l'armée commet aussi plein d'exactions qu'on met souvent sur Boko Haram, etc., sans vouloir défendre Boko Haram, hein, c'est vraiment pas du tout l'idée, mais il y a une situation de chaos, et puis c'est une situation de désolation, c'est-à-dire qu'à l'extrême nord du Cameroun, vous avez l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est-à-dire des territoires totalement délaissés, où les gens sont dans une misère mais absolue, où rien n'a été fait pour le développement de cette région. Et donc, évidemment que tout ça est un terreau extrêmement fertile et favorable. Récemment, j'étais au Cameroun au mois de novembre, et il y avait c'est pas un camarade, mais c'était un intervenant qui a beaucoup travaillé à l'extrême nord, et il est dans les associations de défense des droits humains, et il expliquait que Boko Haram, par exemple, venait dans le coin, entrait en relation avec des jeunes, 18-20 ans, à qui on donnait l'équivalent de... comment je vais vous dire, 300, 400 euros, 500 euros, qui représentaient des choses. C'est-à-dire qu'il nous expliquait que, par exemple, il y a des gens qui jamais n'avaient vu un billet de 5000 francs. 5000 francs, ça équivaut, 5000 francs CFA, ça équivaut à quoi, à combien,
5000 francs, 7,50 euros.
7,50 euros. C'est-à-dire que des jeunes qui n'avaient jamais tenu dans leurs mains, qui avaient 25 ans, hein, par exemple, un billet de 5000 francs. Vous venez face à un jeune comme ça, vous lui dites, bon, écoute, moi je te donne 300-400 euros, alors je vous parle en euros, mais c'est pas en euros, hein, bon. Comme ça, tu peux t'acheter une moto, tu peux faire ton business. Évidemment. Il y a pas... Évidemment que le gars, il va accepter. Hein. Il n'a aucune perspective, aucun avenir, aucun... Donc il se met au service de... Bon. Alors, on est dans une situation comme celle-là. Donc, il y a un terreau qui est totalement favorable pour le recrutement. Il y a une situation de grande confusion parce que vous avez Boko Haram, mais vous avez aussi des groupes qui profitent de la situation de chaos pour faire de la rapine, pour profiter des populations, etc. Et vous avez l'armée régulière qui commet aussi des tas d'exactions. L'armée a commis, par exemple, pour vous donner les cas les plus emblématiques dont on a parlé un petit peu dans les médias, deux monstruosités. Ils ont tiré au motif, soi-disant, que c'était peut-être des femmes qui étaient impliquées, mais sans aucune preuve, hein, évidemment, avec Boko Haram, sur des femmes qui avaient leur bébé au dos. Et ils ont tiré, donc, par derrière, sur le bébé. Bon, donc, ça a tué le bébé, évidemment, et la femme. Donc il y a eu deux situations comme ça. Et en fait, c'est des choses qui avaient été filmées, qui ont été mises sur les réseaux sociaux, et le gouvernement s'est défendu en disant que ça se passait au Mali, que ce n'était pas au Cameroun. Sauf que, après enquête, après recueil de témoignages, etc., il s'est avéré que la preuve a été apportée que c'était bien au Cameroun. Mais évidemment, alors soi-disant, ces militaires, bon, ils allaient être jugés, etc. Autant vous dire qu'il ne s'est rien passé. Hein. Donc voilà, dans quelle situation on est. Ça, c'était l'armée régulière. Donc on est dans une situation comme ça, donc à l'extrême nord, où le chaos continue. Là, depuis, entre janvier et novembre, il y a eu plus de 300 morts. Donc ça continue. Et maintenant, vous avez le nord-ouest et le sud-ouest, donc la zone dite anglophone, où, en fin d'année 2016, il y a eu des manifestations, parce que les gens estimaient qu'ils étaient discriminés, que les francophones, je vous reprends le langage à la manière de parler, le pouvoir central, il est entre guillemets francophone, donc évidemment les gens ils parlent comme ça, francophone, anglophone. Donc, le pouvoir central, francophone, donc, discriminait ces deux régions. Et que vraiment, il y avait plein de choses qui se passaient, qui étaient anormales, notamment au niveau du droit, au niveau de l'enseignement, etc. Donc il y a eu des manifestations, d'abord des avocats, des enseignants, des étudiants, et Ils ont commencé à réprimer. Évidemment, ils ne répondent jamais aux revendications des populations. Donc, ils ont commencé à arrêter les gens, à les malmener, à les embastiller massivement, etc. Et c'est monté crescendo. Parce que c'est deux zones qui sont, depuis historiquement, il y a tout un passif où, à un moment donné, il y avait même ce qu'on appelle des sécessionnistes, c'est-à-dire des gens qui voulaient carrément se séparer du Cameroun et qui disaient « Nous, on veut notre indépendance. » On est discriminé, on n'est pas reconnu, etc., etc. On veut notre... Donc il y a toujours eu, ça a toujours été, parce que en plus la discrimination a toujours existé, et ça c'est une réalité objective. Et du coup, ce fond de mécontentement là, et c'est monté crescendo. Donc les sécessionnistes qui existaient certainement encore de façon minoritaire, face à cette répression, comment dirais-je, il y a eu de plus en plus de gens qui ont dit mais nous on veut la séparation d'avec du reste du Cameroun, et ils se sont constitués en un groupe qui s'appelle l'Ambazonie, c'était le nom que les premiers sécessionnistes s'étaient donné, et ils font, il y a carrément la lutte armée, donc ils se battent contre le pouvoir central, et ils ont des armes, ils se battent contre le pouvoir central. Donc depuis ça a commencé en 2017 à peu près. Et depuis, on est dans une situation de guerre civile totale. Là, on est à presque 1 million de déplacés. Donc, il y a des gens qui sont déplacés au Nigeria, dans des camps. Et il y a plus de 80 000 personnes qui sont des réfugiés. Il y a presque 1 million de réfugiés. Et il y a plus de 80 000 personnes qui sont des déplacés internes. C'est-à-dire qu'ils sont déplacés dans le pays. Mais sans rien. Évidemment, il n'y a pas d'infrastructure pour les accueillir. Ceux qui peuvent avoir un peu de famille par-ci, par-là, seront accueillis par la famille. Mais au bout d'un moment, ça, c'est compliqué. Donc, les gens sont en errance, même dans la brousse, dans la forêt, etc. Et c'est des dizaines et des dizaines de villages qui ont été rasés. On en est à plus de 12 000 morts aujourd'hui. Et donc, personne ne parle de cette situation. Et ça continue. Aujourd'hui, ça continue. Donc voilà la situation du Cameroun, extrême nord, deux régions où c'est vraiment le chaos absolu aussi. Et il y a eu des élections présidentielles en octobre 2018. Et là, il y a des gens qui ont participé aux élections. Et il y a eu un mouvement qui s'appelle le MRC, dont Kamto, c'est un avocat d'affaires international qui s'est présenté donc aux élections et qui a, dès le lendemain des élections, considérer que c'est lui qui avait gagné les élections. Bon, ça se discute, parce qu'on ne sait pas trop comment, mais bon, lui, là, il a dit « j'ai gagné ». Et à partir de là, ça crée une espèce de mouvement un mouvement de mécontentement, il y a eu des manifestations, il y a eu, etc. Et dans la diaspora, il y a effectivement toute une mobilisation, qui a été très importante. Nous, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ça fait longtemps qu'on essayait de mobiliser la diaspora sur des thématiques diverses. Et la diaspora s'est beaucoup mobilisée autour du hold-up électoral, disant que Kamto avait gagné et que, on lui avait ravi sa victoire. Donc, on en est là. Alors, Kamto, c'est un libéral. C'est même quelqu'un qui a fait partie du système, pour vous situer, hein. C'est pour ça que ça a été très très compliqué pour nous, parce qu'au début, en fait, on était content que la diaspora sorte, enfin que cette diaspora se manifeste, bouge, revendique, etc. Et ils ont fait des actions, ils ont mené des actions extrêmement courageuses. C'est-à-dire que tous les gens du pouvoir qui viennent par exemple se faire soigner ici, parce que évidemment, sur le plan sanitaire c'est la cata, mais ils viennent tous se faire soigner ici. Des structures d'éducation, etc., c'est la cata. Ils ont tous leurs gamins ici. Quand je dis ici, c'est en France et ailleurs, hein, aux États-Unis, en France, au Canada, à l'extérieur. La diaspora s'est organisée en structure et pourchassée tous les gens qui venaient ici. Donc, Paul Biya, à chaque fois qu'il arrivait ici, les gens investissaient l'hôtel. Quand il y avait un ponte, et ils étaient très très bien renseignés, quand il y avait un ponte du régime qui arrivait dans un hôpital, ils investissaient l'hôpital et ainsi de suite. Tant et si bien que depuis quelque temps, Biya, qui passait quand même 6 mois de l'année en Suisse, ne vient plus. il est contraint et forcé de rester au Cameroun, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations, et ça, on en est content. Bon, alors, après, le problème, c'est que ce sont des pro-Camto, ce fameux Camto là, dont je vous parlais, qui sont beaucoup derrière ça. Alors, nous, on était dans ces manifestations au début en disant, on y est pour dire, nous, on veut une transition politique. Parce que l'alternative que nous, on propose, et là, j'en viens aux perspectives, ce que nous on dit, c'est qu'aujourd'hui, aucune force, vu la situation de chaos que ce régime néocolonial, qui est quand même installé, bien enquisté quand même, là depuis près de 60 ans, a créé comme situation, aucune force politique seule ne pourra remettre un tant soit peu le pays sur les rails. Donc nous on dit qu'il faut une transition politique. Et seront associées à cette transition toutes les forces progressistes qui veulent un vrai changement, qui veulent une rupture quand même avec ça. La transition viserait à quoi? D'abord, à produire un code électoral véritablement démocratique, où tout le monde pourrait effectivement contrôler le processus, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il faut savoir que le système mis en place par le pouvoir, en ce qui concerne ce processus électoral, de bout en bout, il est contrôlé par le parti-État. Les autres organisations politiques ne peuvent pas aller mettre leur nez dans ce qui se passe. Donc, même si vous êtes dans le bureau de vote, les scrutateurs sont là dans le bureau de vote, etc. Après, les gens du pouvoir disparaissent avec les urnes et ils font ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez avoir gagné. Hein. Après, on va évidemment autoproclamer le dictateur perpétuel comme étant le gagnant. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Donc nous on dit, il faut une transition durant laquelle, qui va porter sur quelques points, le délai et le temps durant laquelle doit durer cette transition sera défini, et on a c'est toutes les forces vives, progressistes, autour d'une table, on se met d'accord sur un certain nombre de choses, donc un code électoral transparent, libre, démocratique, on se met d'accord sur une constitution qui soit enfin pas seulement la reproduction de la constitution française, mais une constitution qui tienne compte des réalités historiques, économiques, sociales, etc. du pays, et que voilà, qui serait élaborée par les représentants du peuple. Et après on va à des élections, et là que le meilleur gagne, avec son programme, en ayant permis à chacun de faire campagne, soit un parti, soit une coalition de partis, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez pas avoir une coalition de partis qui participe aux élections. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, une personnalité, entre guillemets, non encartée, qui participe aux élections. C'est interdit. Aujourd'hui, on n'a pas d'élection à deux tours. Voilà. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Donc évidemment, durant cette période de transition, on mettra en place des conditions qui permettraient d'aller à des élections dans un deuxième temps, mais dans des conditions quand même beaucoup plus favorables aux uns ou aux autres, et permettant à chacun de dire quel est son programme, ce qu'il propose au pays, ce qu'il propose au peuple, et les moyens qu'il se donne pour atteindre ses objectifs. Donc en gros, voilà un peu la situation dans laquelle on est. Là, à nouveau, ils appellent à des élections le 9 février 2020 et élections donc législatives et municipales, et nous on appelle au boycott actif, c'est-à-dire pour que les gens n'y aillent pas, et si les gens sortent, ce qu'on veut c'est mettre massivement les gens dans la rue. Mais là c'est très très difficile parce que au regard de toute la répression effectivement qui existe, les gens ont très peur. En plus de ça, on a une histoire qui, même si elle est lointaine, mais qui fait écho dans toutes les familles. Il n'y a pas un Camerounais qui ne sache pas combien la répression a été forte. Il y a eu des milliers et des milliers de gens dans tout le Cameroun qui ont été assassinés durant toute la période, par exemple des maquis, etc., de la lutte armée. Et ça fait écho dans toutes les familles. Et les gens voient aussi la répression telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, on vous met. C'est ce que j'expliquais à Jamil tout à l'heure, avant qu'on commence. On a, par exemple, un de nos jeunes camarades, qui est activiste, hein, qui est très. Bon, voilà, battant. Et qui est allé avec un groupe de jeunes faire une vidéo à Yaoundé, donc qui est la capitale administrative, près de la poste. Et il faisait une vidéo en dénonçant la situation, en disant que le pays va mal, etc., etc. Probablement qu'il était suivi depuis un moment. Certainement, il était repéré. On est venu les arrêter, séance tenante, et ils ont fait 6 mois de prison. 7 mois de prison. 7 mois. 7 mois de prison. Et voilà, dans les conditions que je vous disais. Hein, c'est-à-dire, si vous voyez les conditions carcérales, c'est même les pires animaux, même des vous les mettez. Enfin, c'est invraisemblable, c'est inimaginable les conditions dans lesquelles les gens sont. Et il a fait 7 mois de prison, et ils sont ensuite, alors lui, ce groupe-là, comme tous les autres, hein, les 3/4 des prisonniers qui ont été arrêtés là toutes ces dernières années, ils sont déférés devant des tribunaux militaires, et ils risquent la peine de mort. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Donc là, ils ont quand même été contraints et forcés. Donc le fameux MRC dont je vous parlais, avec ce fameux candidat avocat international, a quand même initié des manifestations auxquelles se sont d'ailleurs joints des gens qui n'étaient pas... Nous, on a participé à des manifestations. On n'est pas de son parti, bien sûr, mais on a participé à des manifestations parce que ça tend à déverrouiller aussi le système. Et il y a eu énormément d'arrestations. Les gens, Camteau lui-même, et il n'y croyait pas. Et ses amis au niveau de l'international ne se sont pas vraiment manifestés en sa faveur, puisqu'il a quand même fait 9 mois de prison. Parce qu'il s'était proclamé, donc il a été arrêté dans une résidence où ils avaient fait une réunion entre eux, c'est-à-dire que même dans une résidence privée où vous faites une réunion, les forces armées viennent et embarquent tout le monde. Et il a fait 9 mois de prison. Mais autant vous dire, bien qu'il soit avocat, il a pris Moretti hein, comme avocat quand même. Mais ça n'a pas empêché qu'il a fait 9 mois de prison.
Et il coûte cher.
Et il coûte cher. Mais il a de l'argent, le fameux candidat en question. C'est pas pour rien que c'est un libéral, là, il a de l'argent. Et donc, voilà la situation dans laquelle on est. Et ils ont quand même libéré, donc là, il y a un mois, à peu près un mois et demi, 2 mois, ils ont libéré toute une vague de prisonniers, dont ce fameux, il s'appelle Camteau, ce fameux Camteau, avocat international, qui a été libéré avec... beaucoup de ses camarades qui avaient été arrêtés en même temps que lui, et d'autres, dont notre jeune dont je vous parlais, a été dans cette, comment dirais-je, dans cette vague de libération, a été également libéré. Mais il y a encore plein de gens qui croupissent dans les geôles du pouvoir, sans jugement, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et dans les pires conditions. Donc voilà dans quelle situation on est. Donc là, le challenge, l'enjeu pour nous, c'est de réussir à faire en sorte que les gens sortent massivement. Il faut que ce soit massif. Si ça n'est pas massif, c'est très risqué. Et actuellement, ils peuvent faire tirer dans le tas. Malheureusement, et c'est vrai que aucune organisation ne peut prendre ce risque de se dire, bon, voilà, on appelle les gens à sortir, et puis t'as 10, 15, 20, 30 morts, c'est terrible, quoi.
Comme ils ont fait en 2008.
Oui, exactement. Exactement. Tout à fait. En 2008, il y a eu dans beaucoup de pays africains, il y a eu ce qu'on appelait les émeutes de la faim. Et en même temps, au Cameroun, il y avait ça, plus le tripatouillage de la Constitution. Pour que Biya puisse se représenter pour la. Je sais pas combien. Ah oui, ad vitam aeternam, ils ont modifié la Constitution. Et il y a des jeunes, alors là, qui n'étaient même pas vraiment organisés, structurés, qui ont dit non, ça suffit, ras-le-bol, etc.
Ils sont nés, il n'y a que Biya.
Voilà, depuis qu'on a connu Biya, etc. Donc, ils sont allés sur un pont qu'on appelle, qui est le Vouri, c'est un grand fleuve à Douala, et ils sont allés sur ce pont-là manifester, protester, et ils ont tiré dans le tas, il y a eu plus de 200 morts. Des jeunes qui sont tombés à l'eau, qui ne savaient pas nager, etc., plus de 200 morts. Donc voilà, on est dans une situation comme ça. Et le Cameroun, c'est vraiment la chasse gardée. Je pense aussi que, du fait de l'histoire de résistance qu'on a, ça fait partie des pays dont on ne parle pas. Quand je vous dresse ce tableau-là, vous voyez, quand même avec l'extrême nord, plus les deux régions, entre guillemets, anglophones, on se dit, mais quand même, comment ça se fait que... Enfin, c'est incroyable, quoi. Et on n'en parle pas. Et c'est pas faute. En plus, on a quand même des militants. On a des gens qui sont dynamiques, qui sont actifs. on va voir les médias, on leur dit, on leur explique ce qui se passe. On mouille notre chemise les uns les autres pour, comment dirais-je, sensibiliser sur ce qui se passe en venant dans des réunions publiques, en étant en lien avec des tas de gens, etc. En contactant les médias. Blackout. Donc, et c'est vrai que c'est important pour nous, à chaque fois qu'on le peut, de parler de ce qui s'y passe, pour que les gens soient un peu nos relais aussi. Et disent, mais attendez, le Cameroun, et qui plus est, compte tenu de l'histoire du Cameroun, parce que l'histoire de la lutte armée au Cameroun, c'est en même temps, c'était durant la même période qu'en Algérie. Exactement la même période. Et du point de vue des méthodes, ils ont utilisé évidemment les mêmes méthodes, etc. Hein, mais c'est exactement la même période. Donc l'Algérie, bon, je ne dis pas qu'on en parle trop, on en parle quand même un petit peu plus, quoi. Puis il y a quand même une reconnaissance de ce qui s'est passé, etc. Mais le Cameroun, ça reste à faire, quoi. Ça reste à faire connaître dans l'histoire et du Cameroun et de la France, parce que les deux histoires sont liées. Donc voilà, bon, moi je m'en arrête là. Bon, je pense que j'ai été assez longue et après je préfère qu'on échange et que voilà, qu'on essaie d'éclairer ce qu'on peut éclairer. Et il y a mon camarade Ndedi qui est arrivé, voilà, on pourra à deux voix vous édifier un peu plus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce discours extrêmement clair qui montre à ceux qui ne connaissent pas bien l'Afrique ou le Cameroun combien on est désinformé en France. C'est incroyable le niveau de désinformation dont pratiquement toute la presse, disons, nationale. Et ça prouve bien que ce silence ou cette désinformation est bien lié à des intérêts sonnants et trébuchants. Martiné d'une violence sans nom que nous avons... en partie, donc, sur laquelle on a soulevé le voile ce soir. Et donc, merci à tous ceux qui ont réussi à venir. Donc, on a bien fait de maintenir la date. Donc, merci beaucoup. Et on lance donc un moment d'échange avec des questions. On commence à. On prend peut-être 2-3 questions
oui, bien
et
sûr,
ensuite
oui.
On.
D'accord.
On
d'accord.
Oui.
D'accord.
C'est vrai.
Je voudrais revenir justement un petit peu sur ce que vous avez dit tout à fait à la fin, la période de la lutte armée des maquis, c'est quelque chose qui n'est absolument pas connu. Je veux dire, bon, quand on est enseignant, par exemple, on parle absolument jamais. Mais alors, justement, je me suis toujours posé la question, pourquoi, enfin, par rapport à ce que vous avez appelé à juste titre le précaré français, c'est quand même une situation assez exceptionnelle de lutte armée.
Oui.
Qu'est-ce qui explique que dans ce pays, il y a eu la lutte pour l'indépendance sous cette forme-là.
Alors,
c'est une forme aussi organisée, structurée, etc., par rapport aux autres.
Vous avez vu, j'ai insisté sur le... Même si le traitement était le même dans les faits, mais juridiquement, le statut du Cameroun n'était pas le même.
Le mandat.
L'histoire du mandat et de la tutelle.
Oui.
Et dans les textes qui conféraient le mandat ou la tutelle, il y avait des choses qui étaient dites. C'est-à-dire que ce mandat-là devait être exercé dans des délais précis, la tutelle également, et il y avait des comptes à rendre. Et il y avait normalement, par exemple, le travail forcé n'avait pas lieu d'être. C'était dit explicitement. Il y a des choses, et donc il y a eu toute une bataille. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que, durant toute une période, l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, donc notre parti, a été dans une bataille d'ordre... très légaliste, très pacifique. Vous voyez, on envoyait des pétitions en disant oui, mais on nous fait subir telle chose, c'est pas normal. Normalement, dans le mandat, le mandat qui nous lie à la France n'est pas celui-là, etc., etc. Et ainsi de suite. Pareil pour dans le cadre de la tutelle. Donc du coup, on s'est appuyé effectivement sur ce levier pour protester, revendiquer. Et dire, mais attendez, on demande à la Société des Nations, puis ensuite à l'ONU, de jouer son rôle d'arbitre, d'arbitrage, et de faire respecter le droit, de faire respecter la loi, dans le cadre colonial, bien entendu. Alors on est dans ce cadre-là. Et évidemment, que ces instances internationales qui sont bien au service des puissants n'a pas fait jouer, n'a rien, bon, ils n'ont joué aucun rôle. Je rappelle que Oumyobé, donc le fondateur, l'un des fondateurs de l'UPC, est allé 3 fois aux Nations Unies à New York. 3 fois. Vous imaginez avec quels moyens? C'était le peuple qui se cotisait avec ses petits sous. Le peuple, dans les années 50, entre 52 et 54, qui donnait, chacun donnait un petit peu. Et au point où ils ont pu constituer une cagnotte pour avoir de quoi payer un billet d'avion et de quoi vivre là-bas. Ils n'étaient pas hébergés dans un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles à New York, hein, évidemment. Ils vivaient grâce aux cotisations de la population. Voilà, c'est pour vous dire aussi à quel point l'UPC était un parti ancré dans les masses, parce que c'est grâce à cet Oumyobé n'avait pas d'argent, il n'avait pas de fortune, c'était un petit c'était un petit enseignant, il était enseignant, c'est vraiment instituteur. Donc il y a eu pendant toute une période une lutte qui s'est menée sur ce terrain-là. Et c'est monté crescendo, à chaque fois c'était que la répression, que la répression. Vous êtes des communistes, on sait que vous voulez construire le communisme ici, parce que c'était toujours l'attaque, d'où aussi la clarification de Ruben Oumyobé en disant nous ne sommes pas communistes, il essayait toujours de jouer là-dessus, un peu diplomatiquement, mais ça ne changeait rien malheureusement, ça ne changeait absolument rien à l'affaire. Hein. C'est-à-dire, c'est pas pour autant que la répression était moindre. Donc, c'est monté crescendo, 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 au point où à un moment donné, donc lui-même a dû se réfugier et les autres dirigeants ont dû partir aussi dans la zone anglophone. C'est-à-dire que lui, il a dû prendre à un moment donné, aller se cacher parce qu'on le pourchassait. Et ensuite, les autres dirigeants du parti, plusieurs autres dirigeants du parti, ont dû partir dans la zone anglophone où c'était encore un peu plus. C'était pas encore la répression féroce, etc., dans cette zone-là. Donc, ils sont allés se cacher dans cette zone-là. Et ensuite, ils sont partis. Ce qui fait aussi la particularité de l'UPC, l'UPC a toujours eu une vision très panafricaine révolutionnaire, en considérant que le Cameroun tout seul ne s'en sortira pas. L'idée c'est de construire les États-Unis d'Afrique, hein, les États-Unis socialistes d'Afrique même, je dirais. Et c'est ça l'idée, parce qu'on sait très bien que si le Cameroun s'en sort tout seul, je vous ai dit tout à l'heure, on est encerclé par des pays où il y a des bases militaires. On n'a pas besoin d'avoir de base militaire au Cameroun. Tous les pays limitrophes au Cameroun ont une base militaire française. Ils envoient les troupes. Pas besoin qu'on en ait une. Il y en a au Tchad, il y en a en Centrafrique, il y en a au Gabon, il y en a dans le golfe de Guinée. Tranquille, il n'y a pas de problème. C'est tous les pays limitrophes du Cameroun qui ont une frontière commune avec le Cameroun. Donc, je pense qu'ils ont. Et il y avait une tradition aussi de. Je vous dis, très très vite, il y a eu ce maillage avec des militants communistes. Il y a eu cette tradition de syndicalistes. Et donc, tous les leviers ont été utilisés. C'est-à-dire le levier lié au droit. Le levier lié à la revendication, hein, on revendique, on réclame, etc. Et c'était toujours la même réponse, toujours plus de répression, etc. Et donc c'est monté crescendo, et en même temps il y avait une ouverture sur le monde, sur ce qui s'était passé au Vietnam, sur ce qui s'était passé. Enfin vous voyez, il y avait cette ouverture-là sur l'ensemble des mouvements. On n'était pas. Je crois que dès le début, il y avait une ouverture. Des dirigeants et des militants, des principaux dirigeants du parti, qui faisaient que on s'est enrichi, on s'est imprégné des manières de faire et d'être des autres mouvements révolutionnaires. Et donc, à un moment donné, de toute façon, on était acculés et on a pris les armes, avec pas mal d'impréparation et peu de moyens. Donc là, l'aide quand même de un peu de l'Union soviétique, l'aide des Cubains. Etc. Et on a eu des camarades qui ont été dans beaucoup de pays africains, on a eu des bases militantes dans énormément de pays africains, jusque en Égypte, en Algérie, à Cuba, et on a parfois lutté aux côtés de mouvements de libération. On a eu des militants qui se sont battus aux côtés du FLN. on a eu des militants qui se sont battus aux côtés du MPLA en Angola, et ainsi de suite. Et donc, ça fait que l'UPC, par exemple, est un mouvement qui est très, très comment dire, alors maintenant, évidemment, ils ont tellement dénaturé, c'est-à-dire l'UPC, maintenant vous parlez d'UPC, comme il y en a qui collaborent, bah, des UPC. Alors oui, c'est ça, c'est un élément important que j'ai oublié de vous dire. L'une des raisons aussi qu'on a fait, qui a fait qu'on s'appelle UPC Manidem, c'est que le pouvoir n'a rien trouvé de mieux que de créer des UPC gouvernementales. Je ne sais pas si je l'ai dit ça. Voilà, donc ça c'est un élément important. Les UPC gouvernementales. Donc vous entendez parler de l'UPC proche du pouvoir, sachez qu'on y est. C'est pas nous, hein. Voilà. Voilà. Donc une situation de grande confusion. Et du coup, on s'est dit, mais non, mais il faut qu'on se distingue. Il faut qu'on. En même temps, les anciens, il était hors de question qu'on abandonne le sigle UPC. Les gens qui ont donné leur vie. Ou dont les parents ont donné leur vie pour ce nom-là, ils ont dit nous on n'a rien trahi du tout, nous on est resté droit dans nos bottes et on a toujours défendu les mêmes orientations, etc. Et c'est parce qu'à un moment donné on s'est posé la question, savoir s'ils ne voudraient pas mieux changer de sigle. Et ça.
Je peux juste compléter par rapport à la réflexion. Parce qu'en fait, la réflexion, il faut le dire, il y a eu un gouverneur qui avait été envoyé, Roland Pré, lui il est venu, il a dit ouvertement que sa mission c'était de casser la popularité de l'UPC. C'est-à-dire qu'il est venu avec l'idée qu'il doit casser la tendance montante de l'UPC, alors que l'UPC était légaliste, respectait les institutions à l'époque. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est de savoir qu'après 1945, il y a eu le multipartisme.
C'est ça
qui est curieux. Il y avait le multipartisme au Cameroun. Après 1945. Après 1945, il y avait le multipartisme. Donc il y avait un jeu politique. Mais c'est un jeu qui était déjà vicié.
Oui, quand même.
Qui était vicié. Oui. Mais en gros, c'était difficile pour la France qui elle-même a connu des populations qui sont venues l'aider à se libérer du nazisme. C'était difficile pour la France tout au début de maintenir le régime d'indigénat complètement dans certains pays.
Oui.
Donc il y a eu une évolution un petit peu vers une démocratisation de multipartisme. Et c'est dans ce jeu-là que l'UPC, effectivement, c'est dans cette mouvance-là que l'UPC a été créé et donc a commencé à jouer le jeu politique ouvertement, mais qui était vraiment ancré dans les masses et qui montait et qui était effectivement ses revendications premières, c'était. Elle voulait l'indépendance immédiate et la réunification des deux Cameroun, qui étaient donc partitionnés en 1916. En fait. Ça a commencé en 1916, la partition du Cameroun. Et donc, c'est à partir de là, ces revendications-là, effectivement, ça ne correspondait pas beaucoup aux intérêts de la France, etc. Et l'indépendance immédiate, l'élévation du standard de vie des Cameroun.
Oui, ça je l'ai dit après.
Voilà. Voilà, c'est dit. Et donc, en fait, c'est par rapport à cela que cette population de l'UPC, Roland Pré, tu en avais parlé?
Oui.
Ah, d'accord. Donc Roland Pré est venu casser, il a été envoyé pour casser la popularité de
l'UPC. Oui, c'est ça.
Et donc, c'est ça qui a contribué à la. En fait, à ce que l'UPC soit contraint d'aller dans le maquis pour prendre des bras.
C'est ça.
Et donc, effectivement, dans un état de préparation. Mais qui a quand même, la lutte a quand même.
Duré 10 ans.
Elle a duré même plus que ça, parce que quand on
regarde. Oui, 55 jusque fin.
Les années 70.
60, les derniers maximum.
Oui, parce que les derniers
68, 69,
Merci. Alors, merci. Il y a une intervention aussi.
Oui, je voudrais deux points. Un sur l'histoire, sur cette partie, et un sur la période actuelle.
Oui.
Sur le passé. Je voudrais arriver quand même à donner pas mal d'éléments d'information pour essayer qu'on comprenne pourquoi il y a eu un tel mouvement au Cameroun et pas dans les 13 autres pays, dans ce groupe des 14 pays. Parce que c'est au Cameroun qu'il y a eu le mouvement le plus radical pour lutter pour l'indépendance, le plus progressiste, qui a eu la répression la plus dure à cette période, et au moment, alors que dans les autres pays, les pays d'Afrique vont vers ce mouvement d'indépendance, il n'y a pas eu, et ça je me souviens de l'époque, il n'y a pas eu de soutien réel, je parle à Paris, au niveau de la FEANF, de toutes les organisations d'étudiantes africaines, alors qu'il y avait au Cameroun la lutte la plus radicale pour l'indépendance, les hommes étaient un petit peu à côté, et finalement, il y a eu cette répression du Cameroun qui certainement a fait en sorte que la France ait décidé il faut qu'on donne l'indépendance en mettant nos fantoches dans les autres pays, sinon on risque d'avoir des situations comme au Cameroun. Et je pense que cet aspect-là, il ne s'agit pas de rejeter, de condamner, d'accuser les autres pays d'Afrique, mais la jeunesse étudiante nationaliste africaine, des colonies africaines, n'a pas montré à l'époque la solidarité qu'elle aurait dû montrer vis-à-vis de la lutte du Cameroun. Et en France, vraiment, il y avait très très peu de militants qui cherchaient à faire connaître la lutte au Cameroun. Je me souviens à l'époque où justement Mouné a été empoisonné,
c'est ça.
En même temps, il a fait le lien avec l'Algérie. Et vraiment, il y a eu. En France, il n'y a pas eu un mouvement de soutien à la lutte du peuple camerounais. Et je m'explique qu'ensuite, il y a eu toute une période, on peut dire le creux de la vague, quand il y a toute une génération qui a été liquidée physiquement. Il faut du temps pour que les forces puissent reprendre, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, il semble que dans plusieurs pays d'Afrique, on arrive à une situation. Finalement, tu as parlé de Mia, et ça fait 37 ans.
Mia, oui.
Dans d'autres pays d'Afrique, c'est ça. En Égypte, en Algérie, on a eu les 20 ans de Bouteflika. Comment faire pour qu'un mouvement populaire se développe, puisse vraiment faire en sorte que le peuple puisse discuter, échanger, et justement le piège, c'est on va sortir un avocat d'affaires de la haute pour le mettre comme ça. Et peut-être ce qui se passe actuellement du genre en Algérie, de dire on n'en veut pas, ça c'est la question des élections tout de suite, parce que sinon c'est un autre système
bien sûr.
Qui prendra la place. Comment faire en sorte que les conditions permettent le plus de discussions? Alors peut-être, genre au Soudan actuellement, ils ont trouvé une possibilité. C'est ça.
Je réponds directement ou je...
Historiquement, quel était le rôle politique, de l'armée au Cameroun par rapport à ce qu'on sait par exemple en Algérie? On sait que l'armée, dès le départ, ils sont dans le coup d'État. On sait que ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Sankara était quelqu'un qui venait aussi du militaire. Quel était, historiquement, est-ce que l'armée. Le rôle même du militaire, est-ce qu'il a joué un rôle aussi, politique important, comme c'est le cas dans beaucoup de pays africains ou même de pays qu'on appelait à l'époque Tchernobyl. Voilà, c'est ça ma question.
Non, mais c'est juste.
Moi aussi, j'aurais une question.
Oui,
alors ma question était donc d'élargir un peu le paysage, en fait, pour poser une question plus théorique sur le passage du colonialisme au néocolonialisme, c'est-à-dire de l'occupation directe militaire brutale des territoires à des indépendances, mais derrière lesquelles... voilà. Alors, le colonialisme classique du 19e siècle, c'est essentiellement Belgique, France, Angleterre, un peu l'Allemagne. Je me demande dans quelle mesure, enfin, alors je ne connais rien, donc c'est une question de plus, mais il me semble que le modèle du néocolonialisme réside dans le rapport qu'ont les États-Unis avec les États d'Amérique latine qui sont indépendants depuis le 19e siècle, qui ont gagné leur indépendance au cours du 19e siècle, mais dans lesquels les États-Unis font la pluie et le beau temps, Et notamment en Amérique centrale, on parle carrément des républiques bananières parce que ça sert, etc. Donc je me demande si avec 1945, la fin de la guerre, l'hégémonie des États-Unis, on n'a pas voulu importer en Afrique ce modèle venu du comportement des États-Unis en Amérique latine, c'est-à-dire indépendance formelle, autodétermination formelle, mais sur le plan économique, des liens tellement étroits que voilà, c'est juste une question plutôt de modèle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut analyser le néocolonialisme comme, par exemple en Afrique, un mélange entre des restes de l'ancien colonialisme brutal, violent et dominateur, et quelque chose de plus récent qui est ressorti au modèle imposé par les États-Unis vis-à-vis de l'Amérique latine.
Bon, voilà.
Tu diras après, bon.
Alors, peut-être je commence par la dernière pour. Bon, sur le modèle, c'est possible que ce soit, mais en même temps, est-ce que ce ne sont pas finalement les ressorts de l'impérialisme qui sont à interroger? C'est-à-dire que finalement, quand tu es dans une position impérialiste, si tu passes d'un état de colonialisme et que tu veux maintenir tes intérêts, parce que les peuples se sont battus pour quand même conquérir cette indépendance, il faut trouver une manière de continuer à te maintenir. Et par conséquent, ça paraît assez, assez cohérent de trouver des hommes et des femmes qui vont être des hommes et des femmes de paille au service de ces intérêts colonialistes pour continuer à perpétuer ta domination. Donc je sais pas si moi je crois que c'est la nature même de l'impérialisme qui impose le modèle, je l'analyserai comme ça. Je suis pas sûr que, alors ce que je voulais dire aussi, ce qui est important à noter, et ça fait un peu le lien avec ce que tu disais, camarade, c'est que en même temps, partout, c'est vrai au Cameroun mais c'est vrai ailleurs, ils ont coupé les têtes de tous ceux qui se battaient pour les peuples. Partout où tu avais de vrais militants révolutionnaires, de vrais, patriotes, mais au bon sens du terme, pas au sens facho, quoi, au sens, on est des patriotes, on défend le peuple et on défend le pays, etc. Mais partout, ils les ont assassinés. En Centrafrique, c'était Boganda. Alors après, c'était peut-être pas des figures aussi emblématiques qu'ailleurs, mais c'était des gens extrêmement populaires dont on savait le lien qu'ils avaient avec leur peuple. C'était des gens sincères, déterminés, etc. Partout, Lumumba, Sankara, partout, il n'y a pas Olympio, partout où tu avais l'émergence de forces véritablement révolutionnaires, progressistes, proches du peuple, enracinés dans le peuple, ils les ont éliminés. Partout. Donc, à partir de là, évidemment, ça construit déjà la nature néocoloniale des pouvoirs qui vont se... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ceux qui vont arriver au pouvoir, non, mais absolument, excusez-moi, je vais être trivial, mais non, n'en ont rien à foutre du peuple. Ils ne sont pas là pour ça. Et l'armée, pour faire le lien, c'est une armée de prédation qui est au service de ces pouvoirs-là. Ce sont des soudards, mais vraiment quoi. Et ils sont des gens qui sont prêts à tuer et qui sont alors calqués sur le modèle colonial, hein, vraiment calqués, d'une cruauté sans nom, sans pitié, et qui vraiment, il n'y a pas l'ombre d'un début de conscience au niveau de ces gens-là, en tout cas. Et je pense qu'il y aurait vraisemblablement un travail à faire en direction de cette armée, parce que c'est aussi des gens du peuple, c'est aussi des pauvres gens, tu vois. Souvent, c'est des jeunes, parfois qui ont fait un peu d'études, mais d'autres fois pas, et qui finalement, fondamentalement, dans leurs conditions sociales, sont pas finalement si différents. Mais sauf que voilà, l'instrumentalisation qu'on fait de ces gens-là est telle qu'ils sont au service, ils ont choisi un camp qui n'est pas le bon, et du coup, ça devient des ils assassinent leur propre père, leur propre mère, leur peuple. Et c'est ça, à un moment donné, quand tu choisis mal ton camp, tu deviens l'ennemi de ce camp. C'est ça le drame. Mais sauf que il y aurait vraisemblablement tout un travail de sensibilisation et de conscientisation à faire. Mais sauf que comme quand enfin, les libertés publiques sont tellement attaquées par rapport à ce que tu disais, camarade. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, ce qu'il faut absolument. C'est pour ça que moi je pense, mais je reste foncièrement convaincu que l'un des combats premiers, c'est liberté publique. Il faut que les libertés publiques soient, qu'on arrive à faire en sorte qu'elles soient respectées. À partir du moment où elles sont respectées, c'est-à-dire que on te met pas en tôle parce que t'as fait une réunion, on te met pas en tôle parce que t'as rencontré des camarades d'une autre organisation, on te met pas en tôle parce que tu distribues un tract ou tu fais une manif, tout est possible. Là, ça crée une espèce d'ouverture. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Après, il peut y avoir des limites au sens où, voilà, à un moment donné. Mais quand même, à partir du moment où, voilà, les forces vives qui existent dans tous ces peuples-là peuvent s'exprimer, on va trouver les voies et moyens pour vraiment construire le devenir de ces peuples-là, ça c'est certain. Mais faut-il encore, parce que je le dis d'autant plus que malgré la chape de plomb qui existe, tu vois quand même comment les gens se débattent. Moi j'étais sidéré, je suis donc allé au Cameroun au mois de novembre pour le 10e anniversaire du REDAC. Le REDAC, c'est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. 200 personnes réunies dans la salle, donc qui viennent d'une dizaine de pays d'Afrique. Et des gens, et des Camerounais bien sûr, c'est eux qui étaient majoritaires, bien entendu, ça se passait au Cameroun, et des gens qui représentent les étudiants, la société civile, qui travaillent dans des domaines divers et variés, ou qui ne travaillent pas, ou qui sont organisés dans des partis ou pas, dans des associations, et qui prennent la parole pour dire, pour dénoncer le régime, qui prennent des positions très courageuses devant des gens qui, il y avait des représentants du gouvernement, il y avait des flics dans la salle. Le camarade dont je parlais tout à l'heure, notre jeune camarade, était là. Il est venu avec ses sept compagnons là qu'on avait arrêtés pendant 7 mois. Ils sont venus tous. Le jeune en question, il a pris la parole et il a dit que celui qui l'avait arrêté était dans la salle. Et donc, c'est des gens qui prennent des positions extrêmement courageuses. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai trouvé ça mais extrêmement fort et courageux de voir des gens où tu sors de 7 mois d'enfer et tu te lèves dans une salle comme ça, face à des représentants du gouvernement, et tu dis, voilà, au Cameroun, il se passe ça, et d'ailleurs, celui qui m'a arrêté arbitrairement, il est dans la salle. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y avait des avocats qui les ont défendus gratuitement, sans demander un rond, hein, pourtant, ils roulent, à part des grands avocats d'affaires comme celui qui s'est présenté, mais sinon les trois quarts, ils ne roulent pas sur l'or, quoi, tu vois. Et bien, ils sont mis au service de la cause, au service de ces jeunes, qui ne sont évidemment pas en capacité de les payer, et ça, c'est formidable, ce sont des actes de bravoure extraordinaires qu'il faut saluer. Donc, c'est pour ça que je dis, dans les conditions actuelles, si tu peux, il y a des actes comme ça qui sont posés. Ça veut dire que la camarade qui est à la tête du réseau des défenseurs des droits humains, mais elle fait des prouesses, elle fait des choses extraordinaires, elle se bat, c'est une petite bonne femme comme ça, mais elle fait des choses extraordinaires pour défendre les prisonniers d'opinion, pour aller les voir en prison, pour populariser, enfin faire connaître leur situation, etc. Elle fait des choses extraordinaires, elle risque sa peau, elle a été obligée d'exfiltrer ses gamins du pays, parce que ses enfants étaient menacés. Donc voilà, il y a des gens qui posent, qui sont des héros du quotidien, quoi. Et donc je me dis, si les libertés publiques sont un tant soit peu, établies, on va faire des miracles, on va faire des choses magnifiques, c'est certain. En tout cas, j'ai la naïveté de le croire.
Il faut bien partir que le coin
du voilà.
Profit du silence.
Oui, oui, mais parce que les quelques dernières questions et les réponses que tu as faites, Gustave, moi, me ramènent quand même à cette interrogation, et qui est venue ici d'ailleurs à plusieurs reprises sur des sujets différents, c'est qu'on a vraiment besoin de travailler sur les questions de l'impérialisme aujourd'hui. Pas de l'impérialisme d'hier, c'est intéressant.
Oui, oui,
il faut savoir ça. Hein, sans histoire, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je n'épilogue pas. Mais quand même, qu'est-ce que l'impérialisme aujourd'hui, quoi ? Parce que tu en as donné un aspect de l'impérialisme français sur le Cameroun plus particulièrement et plus largement sur les 14 pays sur lesquels la France a encore cette domination de caractère impérialiste, néocolonial et impérialiste. Mais je crois qu'on a vraiment intérêt à revenir sur ces questions parce que, Paul, tu as fait référence à l'Algérie. Alors on suit ça attentivement, hein, toi et moi, puis d'autres certainement, on n'est pas les deux seuls. Mais on voit bien que, à la fois, il y a une forte contestation qui est en train de monter, qui touche finalement aux intérêts de l'impérialisme, hein, pour aller vite, et à ceux qui servent localement, je dirais, de relais, et en même temps, des forces politiques qui ne sont pas en état d'eux, quoi. C'est bien l'équation sur laquelle on a à travailler. Alors, c'est vrai pour l'Algérie, probablement le Cameroun et beaucoup d'autres pays, c'est vrai pour la France aussi, d'ailleurs. Hein. C'est pas nous le modèle. Voilà, les gars, on a trouvé le truc, alors vous l'adaptez chez vous, tout ira très bien. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment que, dans notre travail de réflexion, on creuse cette question très très fort. Et, je sais pas, est-ce qu'on pourrait imaginer, alors oui, on ne peut pas embrasser la terre entière d'un seul coup, ça fait un peu beaucoup, mais on a un projet de faire un débat sur la Chine et l'impérialisme, par exemple, ce qui est un sujet qui fâche, hein, visiblement, et qui va fâcher encore longtemps, certainement. Mais je pense qu'on peut essayer d'avoir plus... un travail sur ça là, dans les périodes qui viennent, je ne sais pas Luigi, on en rediscutera.
Oui.
Moi, alors je suis un peu obsédé parce que je fais de la publicité gratuite là. Il y avait un certain nombre d'entre vous qui y étaient probablement à la conférence de John Smith.
Oui, voilà. Mais je pensais
chez nos amis du
Mars
21e siècle. Mmh. Et bon, du coup, la traduction était pas très audible et que c'était finalement c'était un peu le bordel, j'ai décidé d'acheter le bouquin, je commençais à lire. Alors bon, je redis, parce que je crois que j'ai déjà dit une fois, je suis pas d'accord avec, il y a quelques questions d'orientation qui sont posées, mais bon, voilà, après c'est à discuter, mais par contre il y a un effort réel d'essayer de comprendre quels sont les ressorts actuels de l'impérialisme à l'échelle planétaire. Quoi. On n'est pas en 14-18, hein, on est en 2019. Quoi.
Mais oui, ce livre donne des...
Tu as regardé aussi,
des oui. clés. Alors, ah, oui. Alors, je n'ai pas encore tout lu, mais tout à l'heure, on parlait du cobalt. Mm-hmm. Alors, le cobalt, ça sert à faire ces merveilleux objets. Donc, ça, ce n'est pas un iPhone, mais ça. Les derniers modèles... doit coûter dans les 1000 euros, je ne sais pas. Ouais. Bon, je crois qu'un centime est donné à ses enfants, parce que c'est des enfants qui vont dans les mines de cobalt. Et l'impérialisme est là. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe-t-il pour arriver d'un centime à 1000 euros ? Mm-hmm. Où va tout cet argent ? Mm-hmm. Pas à l'Afrique.
Non,
donc, l'impérialisme, c'est le système qui explique le passage du 1 centime pour ceux qui font œuvre dans les mines de cobalt à 1000 euros que le client paye. En aidant, enfin, tout le système. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire le lien.
Oui, tu as raison, c'est que.
Ce livre est l'analyse économique de l'exploitation incroyable qui existe aujourd'hui et qui explique la violence de politique qui s'exerce.
Moi, je lance cette idée là. Je pense qu'il faut. On a commencé, on l'a déjà fait. Bon, aujourd'hui, c'était un morceau de ça.
Ben, c'est très important.
Mais je crois qu'il faut qu'on aille.
On est très mal informé sur l'Afrique.
Je crois qu'il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin. Alors, il y a beaucoup d'initiatives. Hein. Tu as dit tout à l'heure que vous démeniez beaucoup, ce que je crois. Hein. Mais bon, on connaît bien, comment elle s'appelle, notre amie de Castère, avec. La FASPA, eux aussi, ils font beaucoup de travail pour faire connaître la situation, etc. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on donne une dimension plus politique à tout ça. Plus réfléchi et plus politique. Quand je dis plus réfléchi, ça ne veut pas dire que les gens réfléchissent pas. Hein, mais...
Moi, je, dans tout, enfin, partout où j'interviens, je dis toujours que ce dont les militants africains ont le plus besoin, c'est que les militants français servent de relais d'information dans ce qui se passe. Et puis se mêler de la politique internationale de leur pays. Moi, je me souviendrai toujours, pour vivre en France depuis très longtemps, je me souviendrai toujours de grandes manifestations qui ont eu lieu sous Giscard, où on était dehors, militants africains au coude à coude avec des militants français, pour dire halte à Kolwezi. Il y avait une... Giscard avait envoyé les troupes françaises à Kolwezi. Et il y avait eu une grande manifestation, donc anti-impérialiste, qui avait été organisée par plein de forces diverses, et qui disait clairement à Giscard, on ne veut pas que tu envoies les troupes là-bas, quoi. T'as rien à, les troupes françaises n'ont rien à faire là-bas. C'est des choses comme ça qui devraient se passer. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, par exemple, au Burkina, Mali, Niger, il faudrait qu'il y ait de grandes mobilisations, comment dirais-je, pour dire stop, ça suffit, arrêtez là, arrêtez. Vous n'y êtes pas pour la paix, vous n'y êtes pas pour la paix. Et plus vous êtes là, et finalement, plus ça fait l'effet inverse. Quand Sarko a fait pilonner la Libye, mais punaise, on aurait dû massivement sortir, comme à l'époque du Golfe. Allez, moi j'étais dans toutes les manifs contre par rapport à ce qui se passait dans le Golfe, mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu.
À ce propos, justement, tout à l'heure, tu as dit à juste titre que le rôle militaire de la France vis-à-vis des prétendus terroristes qui sont là, c'est... Si je peux me permettre de traduire, c'est un peu les pompiers pyromanes.
Oui, mais voilà. C'est exactement ça.
Et ça, je crois que un élément de réponse à la difficulté d'intervenir, de manifester là-dessus, c'est le chantage. Puisque il est très difficile aujourd'hui en France de dire que l'armée française, objectivement ou pas, ou subjectivement, est fonctionnelle à la prolifération de ces mouvements qui foutent le bordel.
Exactement.
Et plus ils foutent le bordel, plus l'armée française se sent justifiée, donc le pompier pyromane.
Ouais,
voilà. Et c'est très difficile de déjouer ce mécanisme sans qu'on soit accusé de théorie du complot, etc. Or, on a des interventions, comment s'appelle le ministre des Affaires étrangères. En 2012, décembre 2012, il a déclaré dans le Figaro, ça s'est très vite disparu d'Internet, que Al-Qaïda fait un très bon travail sur le terrain en Syrie. Puisqu'à l'époque, on était sur le point d'envahir la Syrie. Donc, dit par le ministre que Al-Qaïda, ceux qui ont fait tomber les Twin Towers, Ground Zero, fait un très bon travail et qu'il aide les puissances occidentales à faire tomber l'affreux tyran de Syrie, ça en dit long.
Bien sûr.
On n'en parle jamais.
Bien sûr.
On n'en parle jamais. C'était sur Internet, il a disparu vite fait. Voilà. Donc, je pense que la difficulté aujourd'hui est là. C'est-à-dire qu'on est constamment dans le chantage.
C'est ça.
Où on ne peut pas accuser les pompiers d'être aussi des pyromanes.
Oui, pardon. Moi, par rapport à l'impérialisme d'aujourd'hui, ma réflexion va dans le sens où je me dis que même les dirigeants politiques, aussi puissants qu'ils pourraient être, comme ceux des États-Unis ou de la Chine, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont à la remorque des multinationales. Moi, c'est ce que je crois. Ce sont les multinationales aujourd'hui qui dictent les politiques des dirigeants. Moi, ce n'est plus l'inverse. Autant de Gaulle, etc., il y avait un peu cet esprit de la grandeur, l'impérialisme français, c'est d'abord ça passait par l'État français, et voilà, le prestige. Mais aujourd'hui, on est à la remorque des dirigeants sont occidentaux, sont à la remorque des multinationales. Et moi, c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant, parce que politiquement, on pourrait arriver à indexer un dirigeant. en Afrique qui est mauvais, on peut dire que ce bien-là, il ne fait pas grand-chose pour sa population. Mais derrière, il y a tellement des intérêts des multinationales que c'est là où la difficulté se pose. Cette difficulté, on la voit même déjà à travers l'histoire de l'écologie. Hein, quand on. On voit comment il est en train de décider. Parce que ce sont les multinationales qui dictent leur volonté. Donc cet impérialisme-là, d'aujourd'hui, c'est. Je pense qu'il procède moins par les États. La France a toujours sa même mise sur les 14 pays qui ont la France, etc. Mais aux États-Unis, Trump est carrément dans les mêmes multinationales. Mais je le vois à travers toutes les régions occidentales.
Moi, je dirais qu'il y a une collusion entre les deux. Tu vois, les deux, et voilà, il y a maintenant, il n'y a plus de distinction. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Le Drian vient au Cameroun. Le Drian vient au Cameroun, donc il y a une situation de crise, etc. Parce que, bon, il flippe quand même, parce qu'ils disent quand même, on n'est plus tout seul, tu vois, contrairement à une époque, maintenant, il y a quand même, voilà, il y a quand même quelques concurrents qui sont là, qui essaient aussi de gagner du terrain. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a, etc. Bon, donc, chacun pose, avance ses pions, etc. Bon. Donc, le Drian vient au Cameroun. Imaginez-vous, hein, non, mais je veux dire, c'est incroyable, c'est pas une caricature, hein, c'est en vrai que ça se passe, hein, donc il n'y a pas longtemps. Hein. Ils convoquent la classe politique camerounaise. Et ils y vont tous.
Mais
ils y vont tous, donc contexte, ce qui se passe, le drame au nord-ouest et sud-ouest.
Il y a la réunion Afrique-Russie.
Ah oui.
Pour empêcher le BIA en plus ailleurs.
C'est ça, oui. C'est ça, il fallait empêcher BIA d'aller en Russie. Donc là, il y avait la fameuse réunion organisée par Poutine. Voilà. Et donc, il choisit exactement la période, la même période, pour venir au Cameroun, convoquer, donc, bon, bien sûr, il voit bien, mais il convoque la classe politique camerounaise, ils viennent tous, y compris le fameux Camto, là, l'avocat d'affaires, là, hein. Tu vois, là, ça montre bien, quand même, que, franchement, non, voilà. Bon, et Le Drian, en même temps, c'est sûr, il négocie pour Bolloré. Bolloré était en train de perdre le marché du port de Douala, parce que c'est Bolloré qui a le port.
Il a tous les ports.
Oui, il a quasiment tous les ports en Afrique, mais donc il a entre autres le port de Douala. Et il était en train de le perdre. Ce port, la concession avait été, octroyée à un grand groupe italien. Et Bolloré vient, Le Drian vient. Et quelques jours après, mais je ne sais même pas si c'était pas le lendemain ou le surlendemain, il a fait une déclaration en disant que Bolloré, c'est lui qui va garder le. Il revient sur la décision il remet en cause la concession au grand groupe italien. Et c'était au lendemain de la venue de Le Drian. Donc si ça c'est pas, tu vois, voilà, on se serre les coudes, je sais pas ce que c'est. Non, mais je crois qu'il n'y a plus du tout de séparation entre. Ils sont les représentants de la finance comme Macron l'est aujourd'hui. Comme Macron l'est aujourd'hui ici. Hein.
Les deux font de la politique de deux manières différentes.
Voilà.
De deux bords
voilà.
Différents, mais ils ont un impact
voilà.
Politique.
C'est ça.
Bien, alors, ouais, on est obligé de partir. En tout cas, un grand merci pour cette séance.
Merci à vous.
Mais moi, ce que je propose quand même, c'est qu'on regarde. Bon, ça prend un